les divers cortèges se forment près du palais royal et les diverses armes, ici la marine, rendent les honneurs. Il y a énormément de gens dans Bruxelles et le roi défunt reçoit un hommage pratiquement inattendu par son ampleur et par le chagrin qui se dégage de tous les assistants. On pensait à quelque chose de ce genre, on ne pensait pas à cela. Il y a plusieurs grilles, il y a les entrées pour les personnalités gouvernementales, il y a une entrée pour les personnalités invitées, et voici les gens qui arrivent. Dernier salut, dernière inclinaison de tête. Voici les arrivées des personnalités par les grilles du palais. Nous aurons maintes occasions de vous les nommer. Encore une personnalité officielle, mais elles sont si nombreuses qu'il n'est pas possible de les citer toutes. La dépouille était entourée d'un candélabre, d'un crucifix, d'une garde d'honneur et des couronnes des proches de sa famille. Ensuite, après les couronnes de la famille, il y a dans la salle des glaces les fleurs de la France et d'autres pays, le Mali, la Corée, il y a aussi des fleurs de l'Agence Belga, il y a des fleurs innombrables et des registres prêts à recevoir les témoignages d'affection, de respect ou de tristesse. Le Zaïre n'a pas été invité officiellement à ses obsèques et la moitié de la presse belge se demande pourquoi. Si ce n'est pas une erreur que l'on a faite, une erreur diplomatique et une erreur de fait. Mais cela ne nous regarde pas, nous Français. Les liens de la Belgique avec le Zaïre, son ex-colonie, nous échappent totalement. On se représente la plupart du temps le Belge comme un être truculent, plutôt très rond de caractère, rougeau et d'apparence joyeuse, portrait pas tout à fait exact. D'ailleurs, le Belge aime bien la vie et prend toujours les choses du bon côté. Je ne dirais pas que c'est grandiose. Ce ne l'est pas. C'est presque simple, mais c'est fait du profond du cœur. Les chevaux s'impatientent. Attention, ils se mettent à hennir. Mais ceux qui les montent font attention et les empêchent d'une main de bouger. La télévision, c'est la vie, même lorsque l'on salue un mort. Et il n'est pas possible pour un homme, quel qu'il soit, de ne pas être ému, particulièrement à certaines séquences. Dieu sait que j'en ai commenté des obsèques. J'arrive presque à la fin de ma carrière, encore 3-4 émissions, et j'irai planter mes choux. Mais la conclusion que je tire de mon existence et de celle des gens d'à peu près ma génération, c'est que cela va trop vite. Les journées sont longues, la vie est courte. Il est difficile d'entreprendre une œuvre, quelle qu'elle soit, en étant assuré de la mener jusqu'à sa fin. C'est en un sens épatant, parce que cela empêche de s'ennuyer. C'est dans un autre sens très court, trop court. Un officier qui sait qu'il fait belle impression sur le public et sur les téléspectateurs, et qui a exécuté son demi-tour droite de la manière parfaite que l'on connaît aux sous-officiers et aux officiers de carrière. On pense que sur le parcours du cortège funèbre, il y aura entre 200 000 personnes et 1 million. Même les pompiers ne pourront pas couper le cortège. La Croix-Rouge a prévu environ 500 volontaires, 24 ambulances et 4 postes fixes. Le palais, qui n'est pas bien beau, mais le monument date du siècle dernier, sinon du XVIIIe, il est difficile d'accorder le pas des dames au pas des hommes, même en cherchant à le faire, elles n'y parviennent pas tout à fait, et on arrive ici au Saint-Michel. On appelait avant les Saint-Michel et Gudule, mais l'on m'a dit, je vous le donne pour le prix où je l'ai acheté, l'on m'a dit que l'on s'est aperçu que Gudule n'était pas tout à fait sainte. Alors maintenant, on dit la cathédrale Saint-Michel.
Après avoir été l'un des hommes les moins bien connus, on peut presque dire le plus énigmatique à son niveau, tout au moins de son temps. Donc dans quelques minutes ou dans quelques secondes, nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. On va prendre le cercueil et cela va être la levée du corps. Je me répète la question fameuse et simple des livres sacrés et que Pierre-Emmanuel a reprise. Qui est cet homme? Et aussi, qu'a-t-il fait au juste? Vous voyez que lorsque l'on prononce à son propos le mot de énigmatique, c'est presque une litote. Cet homme, à partir de 1983, par suite d'interruption des fonctions des reins, dut suivre un traitement d'hémodialyse, c'est-à-dire que l'on fit fonctionner un rein artificiel. Le traitement assurait un état satisfaisant et entretenait la capacité de travail. Cependant, à la fin de janvier 84, il y a peu de temps en somme, l'état s'est aggravé par suite de modifications dystrophiques progressives dans les organes internes et l'hypertension progressive. Ces termes médicaux, finalement, peuvent se résumer ainsi. Il était malade de bien des maladies et il avait livré un match à la mort, à l'issue duquel la mort, comme disait Horace il y a déjà 2000 ans, a rattrapé celui qui la fuyait. Dans les pays, les enterrements, les derniers voyages, depuis la levée du corps jusqu'au lieu d'ensevelissement, diffèrent dans leur forme. Je me souviens d'avoir présenté sur les écrans de la télévision, des télévisions, un certain nombre d'obsèques, par exemple en Grande-Bretagne. Eh bien, tout y est davantage ordonnancé. Tout y semble provenir d'un moule. Tout y semble y avoir été très longuement mûri et préparé. Ici, les gens marchent, qu'on me pardonne l'expression. Et alors qu'apparaît le portrait du disparu, l'un des innombrables portraits du disparu que vous verrez aujourd'hui, il y a une sorte d'improvisation. Il n'y a pas de pas cadencé. Il n'y a pas de défilé à proprement dit. C'est un cortège qui passe.
Il fait, je dois dire, merveilleusement beau sur la tour. Le soleil est éclatant, tout chaud, tout enveloppant. La cérémonie funèbre se déroule dans une sorte de paradoxe du temps. On imagine en principe, sauf si on est soi-même du monde, des obsèques comme devant avoir lieu sous un temps gris, sous le crachin, sous le vent. Pas du tout. Et ce contraste surprend un peu. Le soleil est très haut dans le ciel. Il est si chaud, il est si doux. Je me demande si ce n'est pas une sorte de symbole. Certaines de ces Eurovisions se font avec des fiches, avec des notes, avec des pans entiers d'histoire. Celles-ci se commandent surtout avec le souvenir. Le souvenir de cette dame que j'ai eu parfois, parfois seulement, et bien moins souvent que vous, Pierre, la chance d'approcher, et aussi, et surtout, dirais-je, en pensant à la douleur de la famille, après cette mort absurde, après cet accident imprévisible, et qui ne s'est jamais laissé aller au cours de la première partie de son existence, non plus qu'au cours de la deuxième partie de cette existence, qui ne s'est jamais laissé aller à transgresser la limite des convenances, la limite de la pudeur. Calme, digne, belle, charmante, très bonne, telle que vous étiez, madame. À l'époque, cette femme dont on va soulever les restes était une artiste
Et jamais l'expression s'éteindre ne s'est appliquée mieux. C'était un être de lumière. C'était un homme de flamme. Un homme d'espérance, de culture et de foi. Un homme d'enthousiasme et d'explosion. Il brillait d'un éclat permanent. Il n'est plus et nous sommes plus pauvres. Il laissera sa trace sur la terre, serait-ce seulement parce qu'il a ébloui tous ceux qui l'ont connu et dont votre commentateur s'honore d'avoir été. Le disparu était un homme de taille moyenne, rond mais non bedonnant, au crâne rasé. Fumant une pipe souvent, une pipe en provenance du Jura bien évidemment, avec un zézéiment célèbre, mais à l'éloquence redoutable. Je me rappelle la lèvre gourmande, l'œil attentif, une foudroyante rapidité pour comprendre ce qu'on lui disait, et aussi ce qu'on ne lui disait pas. Il maniait avec sûreté cet art de la séduction qu'est l'improvisation. Polyglotte, il brillait dans le maniement de la parole en émaillant ses propos de délicatesse grammaticale et de citations puisées aux sources grecques, latines, russes et chinoises. Sa curiosité insatiable était celle d'un homme cultivé. Il passa l'agrégation à 54 ans. Esprit curieux, il s'intéressait aussi bien à la bande dessinée, au roman policier, il en écrivait lui-même, dans la tradition d'Agatha Christie, et à l'histoire. Il campa un portrait remarquable de Turgot, il traita avec maîtrise de la banqueroute de Lens. C'est en poursuivant son analyse sur ce financier qu'il a conçu de mettre en tête de son programme politique le droit au travail, le droit du travail, la seule source de la création de richesses, disait-il, et de revenus. Mais il était aussi compositeur avec des chansons romantiques, le bal du dimanche, je me sens le vague à l'âme. Quant à toutes les charges qu'il assumait, à toutes les présidences qu'il collectionnait, le terme, je l'ai entendu le prononcer, elles sont si nombreuses qu'il faudrait une émission nouvelle et d'une longueur semblable à celle-ci, rien que pour les citer. Il disait, j'ai la faiblesse de croire qu'on peut faire et bien faire deux choses à la fois. Lui en faisait simultanément 10, 12, 20, nul ne sait plus. Surtout, il donnait tort à la maxime latine, de minimis non curat praetor. Autrement dit, le patron ne doit pas s'occuper des détails, ou si vous voulez, les détails, c'est pour la piétaille. Patron, et patron considérable dans toutes les circonstances de la vie publique, savait s'occuper des détails. Il aimait s'en occuper, et il ne croyait pas déchoir en y étant très attentif.
Une foule nombreuse se presse dans les rues du centre de Moscou. Mais le chemin à parcourir pour ce dernier voyage est court. On le voyait en général descendre d'avion ou de train souriant, même dans les circonstances les plus difficiles. Il souriait même lorsqu'il savait que le voyage ne servirait pas à grand-chose et que les décisions étaient déjà prises. Même lorsqu'il arrivait pour prendre part aux discussions les plus difficiles, il faisait l'effort de se composer un visage où on ne lisait pas le drame. Tantôt ce visage sérieux que nous rend le portrait, tantôt un visage plus souriant. Il ne jouait pas à affoler les gens, même s'il devait un peu plus tard, derrière les portes closes du lieu des débats, insister, exiger, peut-être, ou menacer. Son œuvre, comme toute œuvre humaine, comporte des aspects positifs et des aspects négatifs. Chacun de nous jugera selon sa conscience et sa conception du bien et du mal. Et puis un jour, on séparera là-haut le bon grain de l'ivraie. La tâche du commentateur n'est pas, aujourd'hui, l'exégèse d'une politique. Le bilan est adressé ailleurs, en d'autres circonstances, en fonction de ce qu'il aura pu faire avec l'aide de ses collaborateurs qui passent, en fonction de ce qu'il n'aura pas pu faire car il n'a pas su tout faire. Et ce sont des voix autorisées qui dresseront le bilan des 18 années de règne de cet homme qui passe. Naturellement, on peut mettre en doute toutes les biographies, mais à force de tout mettre en doute, on se retrouve devant le néant. Qu'on l'aimât ou qu'on le détestât, ce n'était pas le néant. Son coefficient personnel, donc, le fait qu'il savait se faire écouter et entendre, son air bonhomme dans la vie privée. Dans la vie privée, il n'avait pas ce visage sévère que l'on a choisi de représenter ici pendant tout le parcours du cortège funèbre. Il avait un air si bonhomme que certains le disaient bonasse. Mais où est la frontière? C'est beaucoup, l'apparence. Il n'y a pas celui qui passe, seulement sur votre écran, sur son affût de canon, rouge, veiné de noir, en signe de deuil. Il n'y a pas que cet homme qui passe, il y a celui ou ceux qui lui succèdent, celui ou ceux qui tiennent maintenant en main les destinées de ce formidable État. J'ai toujours cru comprendre qu'il séparait la chose politique, les angoisses et les affres des décisions politiques de la simple courtoisie humaine. C'est ainsi qu'il était. Et s'il fronçait les sourcils qu'il avait étonnamment épais dans ses discussions ou dans ses exigences ou dans ses colères, il ne le faisait pas au dehors pour le simple plaisir de le faire. J'appartiens à une forme de civilisation où l'on a le respect de la mort, même si cette notion souffre des exceptions quotidiennes. On m'a appris à ôter mon chapeau lorsque passe un mort. Mais ôter son chapeau ne signifie pas forcément donner un coup de chapeau. Une question se pose, mais je n'ai pas de réponse. Pourquoi la Suède a-t-elle attendu 15 jours avant de porter en terre M. Palme? Il semble que ce ne soit pas la durée la plus longue que l'on ait utilisée là-bas. Il y a des gens qui ont attendu 4, 5 et 6 semaines avant d'être enterrés. L'assassin court toujours. Certes, on a arrêté un suspect avant-hier soir, mais aux dernières nouvelles, il semble qu'on doive le relâcher bientôt. Alors, il y a 5000 policiers sur le parcours du cortège, mêlés à d'innombrables inspecteurs en civil, mais la police de Suède dit ceci: il y a sur le parcours qu'empruntera le cortège 12 000 fenêtres. Et de chaque fenêtre, ma foi, quelqu'un peut tirer, supposé un tueur kamikaze. Rappeler les qualités de cet homme d'État éminent et pour rappeler aussi les critiques que l'on a faites de lui, car nul n'est tout blanc, nul n'est tout noir, jamais, tout au moins j'essaierai, je n'utiliserai de mots qui puissent avoir un double sens. Je n'aurai pas cette bassesse. Les mots auront leur sens, leur plein sens, je l'espère, mais il ne faut pas lire derrière. Il ne faut pas y voir une sorte d'encouragement ou au contraire de découragement pour l'expression de votre opinion de demain. Je tiens à le souligner. Après quelques instants de silence, Laura va répondre. La cérémonie continue et je dois dire qu'elle prend un peu de retard. En principe, nous devions être à 15h35. Dehors, c'est-à-dire que les caméras de la télévision suédoise auraient dû vous montrer la foule, et nous aurions cherché à lire sur son visage cette foule, comment interpréter ce regard. C'est la question que nous nous serions posée, sa gravité, son émotion et son incrédulité 15 jours après l'assassinat. La mobilisation des mesures de sécurité a été exceptionnelle, les ambassades ont reçu une protection supplémentaire, les grands hôtels sont l'objet de toutes les attentions de la police qui vérifiait la liste des clients et fouillait aussi à l'aide de leurs ordinateurs le passé du personnel. Les 300 employés du Sheraton, par exemple, sont originaires de 29 pays. Enfin, toutes les ambulances de la région ont été réquisitionnées et croisent près de l'hôtel de ville Les hommes se transmettent la vie comme les coureurs se passent le flambeau. Ce n'était pas un homme de haute stature, ce que l'on voyait en lui d'abord, c'était ses yeux bleus, son regard aigu, et ses cheveux épais, blonds foncés. Le visage était du genre émacié. Il remuait perpétuellement les mains et lui arrivait quelquefois d'avoir une sorte d'onction d'homme d'église. Il était plutôt cassant avec ses adversaires politiques. Il adoptait avec eux volontiers un ton âpre, comme s'il était certain de ne pas connaître le doute, de détenir la vérité. D'ailleurs, il avait horreur de devoir reconnaître une erreur. Bref, il rattrapait par son énergie et par ce que l'on appelait sa vibration personnelle, ce dont il pouvait parfois, quelquefois, aux instants de doute, manquer de présence physique.
Vous le verrez dans quelques secondes, lorsque la bière sera portée sur l'affût de canon, il fait à Belgrade une très chaude journée de printemps, un soleil enfin arrivé, exactement dans le jardin de la petite maison, nichée dans la verdure, les drapeaux à mi-main en signe de deuil, dans les jardins de la petite maison, en pleine colline de Dédigné, où il aimait à se rendre tous les soirs. C'est un peu, dit-on, le Saint-Cloud de Belgrade. Mort à près de 88 ans, il aurait eu 88 ans hier, il est mort dimanche, après une abominablement longue agonie qui a soulevé dans plusieurs pays, dans de nombreux pays même, un certain nombre de protestations, mais il ne fallait pas s'immiscer, bien entendu, dans les affaires intérieures de ce pays indépendant, ô combien souverain, ô combien l'homme de la génération de Roosevelt, de Staline, de Churchill, de Gaulle, de Chiang Kai-shek, de Mao Tse-tung, le dernier des très grands qui était arrivé au premier plan pendant la guerre. Je parlais tout à l'heure de parterre de roi. Il y a le roi des Belges, il y a le roi de Suède, il y a le roi de Norvège, il y a le roi de Jordanie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. La date des obsèques n'est peut-être pas celle que l'on aurait souhaité, celle qui aurait permis au chef de l'État de venir. Et il y a, je cite, mais il faudrait les citer tous, et il y a Madame Gandhi, Premier ministre de l'Inde, et le président du Pakistan, dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. Le monde entier est venu. Tito avait été marié 3 fois, une première fois avec une Russe, une deuxième fois avec une Slovène qui périt dans les combats de 41-44, et dernièrement, pendant de longues années, avec une femme de 30 ans, sa cadette. Il l'a écartée il y a quelques années, une première fois, parce qu'elle essayait de faire obtenir des responsabilités importantes à des généraux d'origine serbe, et Tito s'aperçut que cela démantèlerait l'équilibre entre les 8 républiques indépendantes auxquelles il avait tellement travaillé. Ses 2 fils, Zarko, 56 ans, celui qui est né de la mère russe, que Tito avait connu à l'époque où il était à Leningrad et où il s'imbibait des doctrines léninistes, et Micha, qui a 39 ans, le fils de la Slovène, et qui fut la compagne des années de la résistance armée de Tito, et elle est morte au combat. Et sa veuve actuelle, c'est Jovanka, qui vit aujourd'hui à Belgrade dans une résidence mise à sa disposition depuis qu'elle a été écartée de la vie publique. Mais ses voitures sont conduites par des officiers de l'armée, et elle est toujours l'épouse, donc aujourd'hui la veuve du chef de l'État. C'est elle qui est au centre de ce premier rang. Et sa douleur doit être d'autant plus grande que depuis 3 ans, elle n'avait officiellement, du moins, plus de contact avec le maréchal président. Ce jour-là, il a bouclé la boucle. Il a obtenu de la vie tout ce qu'il en avait désiré. Il sera encore 4 ans plus tard chef d'état-major général des forces armées britanniques. Bref, il n'y a pas un seul haut commandement qu'il n'a pas exercé, jouant dans la vie de son pays, de l'Europe et du monde, un rôle plus qu'éminent, tout à fait capital, dont on ne se doutait pas, tellement il apparaissait charmant, élégant, flegmatique, détaché, british, dirais-je, dans le meilleur, dans le plus grand sens du terme. J'ai assisté hier à la répétition de ce service funèbre. C'était prodigieux. Prodigieux de sobriété, prodigieux d'émotion. Pour prendre la formule de Chazourne, il était héros, comme d'autres sont fonctionnaires. L'avenue du Mal, par une merveilleusement belle journée, du soleil qui luit sur Londres et qui joue dans les feuillages. Du haut de la maison de Nouvelle-Zélande, une vue générale de Londres, par cette fin d'été qui ressemble au printemps. Il savait que la BBC préparait une émission spéciale sur lui, que nous appelons en termes de métier la nécrose, la nécrologie. Il demanda à participer à l'émission et il a dit ceci. « J'aimerais ne pas être brûlé ni immergé en mer, mais plutôt être enterré chez moi à Ramsey. Il le sera. J'espère que ce sera une occasion heureuse et que les gens ne pleureront pas. Toute ma vie, j'ai goûté le plaisir de l'existence et j'entends goûter celui de la mort. J'ai vécu longtemps. Il ne sert à rien de s'accrocher. Je ne redoute pas la fin quand elle viendra, à condition qu'elle soit raisonnable, paisible et que ce soit une sorte de mort satisfaisante. » Il est évident que sur ce dernier point, il n'a pas été exaucé. Mais il aimait à dire que toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort, citant Sénèque, et j'ajouterai, en citant Cicéron, que la vie des morts consiste à survivre dans l'esprit des vivants. Il avait toutes les formes du monde, même l'humour macabre. Il avait préparé, en partie, l'ordonnancement de ces funérailles auxquelles nous assistons. Les drapeaux s'inclinent. Maintenant que je suis parvenu à l'âge où je ne suis plus en mesure de servir, je n'ai aucune raison de rester éternellement en vie et de devenir un fardeau pour les gens. Il m'est donc indifférent de mourir le moment venu, à condition que ce soit une mort à peu près tranquille et satisfaisante. J'ai profité des joies de la vie et j'espère bien que ma mort sera aussi amusante. Je suis désolé, messieurs, disait-il au journaliste, mais je ne pourrai pas être là pour participer aux réjouissances. On me dira que peut-être j'utilise là des mots qui, dans une circonstance funèbre, peuvent détonner, mais ce sont les mots mêmes qu'écrivait, que prononçait, que disait, qu'enregistrait celui que l'on porte aujourd'hui à sa dernière demeure.
Nombreux amis ont voulu être auprès de Léon Zitrone cet après-midi à l'église Saint-Justin de Levallois-Perret. Beaucoup lui ont écrit. Il avait choisi cette chapelle pour ses obsèques, pour la fin de son long parcours dans le monde. Léon Zitrone disait récemment avoir été touché par la paix. Léon Zitrone avait eu longtemps une hantise. Il redoutait toujours de n'être pas prêt devant le micro. Et il aurait aimé qu'on lui dise « Léon, tu n'as pas rendu l'antenne. »